Michel Lussault, bonjour. Vous avez développé un grand nombre de travaux qui donnent un soubassement théorique à la compréhension des pratiques spatiales des individus et à leur spatialité. Et du coup, nous aimerions savoir quelle place vous accordez aux mobilités spatiales dans l'analyse du rapport des sociétés à l'espace.
Pour moi, les mobilités sont absolument essentielles puisque c'est une des modalités par lesquelles les individus définissent leur relation à leur propre vie, à leurs espaces de vie et aux autres et aux espaces de vie des autres. Donc il me paraît très difficile de penser en géographe et de penser la ville contemporaine sans faire appel à une réflexion poussée sur les mobilités. Mais je crois d'ailleurs que c'est très difficile peut-être de penser l'histoire de l'habitation humaine de la planète sans faire référence aux mobilités, puisque même si les mobilités contemporaines sont très spectaculaires, et on en reparlera peut-être, il semblerait que ce fichu Homo sapiens soit depuis le départ un individu extrêmement mobile et que l'espèce soit marquée par une sorte de pulsion de mobilité qu'on retrouve absolument à toutes les époques. Donc si je puis dire, la mobilité c'est quelque chose qui ne concerne pas que le contemporain, et de ce point de vue-là, on retrouve les intuitions de certains qui, comme John Hurry ou François Hacher en France, avaient voulu développer ce qu'on a appelé ensuite les Mobility Studies, qui faisaient le pari que appréhender la mobilité, c'était pas simplement rajouter un champ aux sciences sociales, c'était repenser l'intégralité des sciences sociales à partir de l'affirmation du principe de mobilité comme étant au cœur de l'existence individuelle et de l'existence des sociétés. Je pense que c'est profondément juste. Alors une fois qu'on a dit ça, évidemment, on peut se tourner vers les mobilités contemporaines. En ce sens, nous sommes gâtés puisque on peut bien considérer qu'une des caractéristiques majeures de la phase contemporaine de l'urbanisation, celle qui correspond à ce que j'appelle l'urbanisation généralisée du monde, qui commence aux alentours de 1950, cette phase donne une importance tout à fait décisive aux mobilités. On peut même penser que le monde ne se serait pas urbanisé comme il s'est urbanisé, puisque l'urbanisation peut être considérée comme générale et globale. Générale, elle touche tous les individus et toutes les sociétés. Globale, elle construit le monde en tant qu'espace social d'échelle planétaire. On peut penser que la mondialisation contemporaine et l'urbanisation contemporaine n'auraient absolument pas le même aspect s'il n'y avait pas eu les mobilités. Et si l'on y réfléchit bien, l'accentuation des mobilités depuis 60 ans est tout à fait spectaculaire. Et c'est une accentuation que l'on peut étudier à la fois pour les individus, pour les objets et les marchandises, et pour les réalités immatérielles que sont les données, que ce soit des données informationnelles, des données financières, mais aujourd'hui toutes sortes de données. Nous avons donc ce que j'appelle un principe de mobilisation générale, hein, tout bouge tout le temps, partout, qui est tout à fait constitutif de notre contemporanéité. On ne peut pas penser le contemporain si l'on ne pense pas d'abord la mobilité, et une mobilité qu'il faut appréhender pour tout, pour tous et toutes, et à toutes les échelles synchroniquement. Et c'est ça qui donne au champ des études mobilitaires contemporaines une si grande richesse. Et on retrouve ce que l'on disait tout à l'heure à propos de l'intuition de John Hurry, par exemple, c'est-à-dire que quand on rentre par la mobilité, alors on ne fait pas qu'étudier le déplacement ou le transport, c'est l'ensemble de la société dans ses principes et ses modalités de déploiement qu'on est capable d'aborder. Et pour un géographe, étudier les espaces de vie contemporains, c'est à un moment ou à un autre nécessairement tomber, pardon l'expression, sur la problématique mobilitaire. Et plus exactement, c'est essayer de comprendre comment, pour chaque individu aujourd'hui urbanisé, sa spatialité l'oblige en quelque sorte, encore que cette obligation puisse être délicieuse de temps à autre, l'oblige à mettre en tension ce que j'appelle ses ancrages, c'est-à-dire les espaces où on peut se tenir, où on peut résider, où on peut se stabiliser, les mobilités, c'est-à-dire toutes les pratiques du mouvement qui sont nécessaires à la vie au quotidien, et qui font d'ailleurs que les espaces du mouvement sont de véritables espaces habités par les individus, et ce que j'appelle les télécommunications et les connexions, puisque aujourd'hui, on peut considérer que la télécommunication a pris une importance également tout à fait décisive. Donc la spatialité d'un individu, c'est cette mise en tension de l'ancrage, de la mobilité et de la télécommunication. Et qu'on entre par quelques sommets du triangle que ce soit, on va à un moment ou à un autre croiser les deux autres. On entre par la mobilité, on trouvera les ancrages et la télécommunication. On entre par les ancrages, on trouvera la mobilité et la télécommunication. Et le rôle des sciences sociales, c'est évidemment de comprendre comment tout ceci se met en tension, comme je dis, et fait système.
Qu'est-ce que cela change finalement à l'organisation de la société ? Qu'est-ce que ça amène aussi comme nouvelle manière de penser la société avec plus du coup l'approche sociologique, j'ai envie de dire, sur ces mobilités ?
Je crois que ça a eu comme conséquence immédiate, et on en voit bien d'ailleurs les difficultés, y compris en termes politiques et culturels, comme conséquence immédiate, ça a eu comme conséquence immédiate de faire en sorte que, de mon point de vue, le territoire et la territorialisation à l'ancienne ont considérablement souffert. Finalement, le territoire à l'ancienne, c'est une croyance dans la nécessité pour les individus d'être compris et pensés en tant qu'ils appartiennent à un lieu et à un territoire qui les fixerait en quelque sorte, qui les assignerait à une territorialité, qui les assignerait à une résidence. Si l'on accepte de considérer que la mobilité est un principe tout à fait décisif, que va-t-on voir ? Eh bien, on va observer la constance avec laquelle les individus, quels que soient leurs groupes sociaux, bougent, se déplacent, franchissent, passent les limites, et vont recomposer des existences ailleurs ou avec d'autres réalités que celles avec lesquelles ils avaient l'habitude de se concerter dans le cadre de leur territoire d'assignation. Et ça, c'est valable pour les individus comme pour les choses. Nous en vivons aujourd'hui une expression très claire autour des débats sur les réfugiés et les migrants. Sur les frontières, faut-il les ouvrir, faut-il les fermer ? La question est un peu pathétique, parce qu'on sait que même lorsqu'on les ferme, de toute façon, elles sont traversées. Et nous voyons bien à quel point nous ne sommes pas encore complètement capables de tirer toutes les conséquences culturelles et politiques d'un constat objectif qui est celui de la mobilité des individus, depuis toujours, avec une accentuation récente qui est liée au principe même que la mondialisation a promu. Mais c'est valable aussi du côté des données et de l'information. D'ailleurs, que font les pouvoirs antidémocratiques partout au monde ? Qu'essayent-ils de faire ? Ils essayent de restreindre la circulation des données. Que fait la Chine ? Elle interdit Facebook et Twitter. Que fait la Turquie aujourd'hui ? Elle interdit l'usage des réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que cette circulation vient brouiller la territorialité classique de la circulation de l'information. Mais on voit exactement la même chose pour les marchandises et les productions. En réalité, l'évolution des systèmes productifs, avec ce qu'on a appelé le dégroupage généralisé des systèmes productifs, fait que aujourd'hui, on ne peut plus vraiment assigner une production à un seul territoire. Et qu'est-ce que ça a provoqué ? Ça a provoqué une crise des systèmes productifs industriels qui étaient mis en place à partir du 19e siècle, qui étaient plutôt des systèmes très territorialisés. On a en quelque sorte déterritorialisé et respatialisé les systèmes productifs. Et on a vu toute une série de mouvements de contestation de ça. Et d'ailleurs, ça n'est pas un hasard si un des mouvements de contestation du système productif capitaliste contemporain le plus fort est un mouvement qui s'appuie sur l'idée qu'il faut relocaliser les productions, aller vers la maîtrise des circuits courts, aller vers la maîtrise des systèmes territorialisés. Donc on voit bien comment la mobilité, c'est en fait la mouche du coche et le grain de sable dans la mécanique territoriale qui vient tout brouiller, et c'est en ce sens qu'elle est très intéressante parce qu'elle nous permet de comprendre la société dans ses mouvements, alors qu'une bonne partie des analyses et surtout des idéologies voudraient toujours nous proposer des visions des sociétés dans leurs arrêts. Et ce que je trouve intéressant, c'est évidemment la mise en dialogue des mouvements et des arrêts et des ancrages.
Merci beaucoup.